Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse au terrorisme et à la corruption, deux sérieuses menaces pour la paix et la sécurité internationale, deux fléaux qui viennent d'être examinés et débattus, et ce à l'occasion de deux importantes réunions organisées au siège de l'ONU à New York. Durant cet été, New York accueille plusieurs grandes réunions pour renforcer les efforts contre des fléaux qui menacent l'autorité des États, sapent les économies et donc les possibilités pour les plus pauvres de combler leur retard. La première de ces réunions a permis d'examiner la mise en œuvre de la stratégie mondiale des Nations Unies contre le terrorisme. Pour en savoir plus, j'ai joint à Paris Jean-Paul Laborde, conseiller à la Cour de cassation, membre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et ancien président de l'équipe spéciale du secrétaire général sur le terrorisme.
Je crois que ce qu'il faut attendre, c'est vraiment la mise en œuvre concrète de la stratégie. Jusqu'à maintenant, on a mis les choses en place, on a mis ensemble toutes les agences des Nations Unies qui travaillent sur la question, on a mobilisé les États, mais je crois que actuellement, ce qui convient de faire, c'est vraiment de mettre en place les outils de coopération technique qui vont permettre aux États de lutter efficacement contre le terrorisme ensemble.
Alors, est-ce que ça passe notamment par la fameuse création d'un poste de coordonnateur de cette stratégie ?
Il faudrait que pour l'ONU, on ait une vision un peu plus coordonnatrice encore, parce qu'il y a de nombreuses agences, plus d'une trentaine, qui travaillent d'une manière parcellaire sur la question, et il faut renforcer cette coordination. La première étape, c'était effectivement l'institutionnalisation de l'équipe du secrétaire général, qui était dirigée par un directeur, mais je pense que c'est un point tellement politique qu'il faut que cette équipe et toute cette coordination soit faite par quelqu'un qui soit très proche du secrétaire général et qui soit vraiment la figure emblématique de la lutte contre le terrorisme au niveau de l'ONU. On ne marche pas sans leader.
Alors ce coordonnateur, donc pour l'instant à désigner, a quand même pas mal de défis à relever, puis de toute façon générale, les tenants de la stratégie. On parle notamment des mouvements transfrontaliers, on l'a vu notamment en Afrique, il y a des exemples très précis et très récents. Est-ce que justement par rapport à ces inquiétudes en Afrique en particulier, la stratégie est à même aujourd'hui d'apporter les réponses adéquates ?
Effectivement, c'est un des éléments les plus importants, pas seulement en Afrique, mais cette Afrique subsaharienne est un des endroits très très sensibles. Pourquoi ? Parce que vous avez cette conjonction, voire quelquefois même ce mariage entre le crime organisé et le terrorisme. Le terrorisme se nourrit en Afrique subsaharienne de toutes ces ramifications de crime organisé, que ce soit par la prise d'otages, le trafic d'armes, le trafic de drogue, etc. C'est un défi tellement important que ça relève à la fois des pays du Maghreb et des pays de la zone subsaharienne. L'ONU a sa place, donc, le coordonnateur général, grâce à sa capacité politique de travail, devra vraiment faire l'union de ces pays, de cette zone subsaharienne. Il devra faire sûrement le même travail dans d'autres zones du monde, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, c'est certain.
Alors au début de l'entrevue, vous insistiez justement sur la mise en œuvre concrète de la stratégie. Ça passe par le renforcement des capacités des pays, ça passe aussi par des stratégies régionales, nationales, une sorte de maillage un peu donc de tous ces continents, de tous ces pays. Alors est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie, après quelques années d'existence, a déjà donc progressé en ce sens et quelles sont aujourd'hui les étapes importantes qui l'attendent ?
Alors, le progrès, c'est dans l'Asie centrale, on a déjà fait un progrès que l'on décline au niveau régional, avec des organisations régionales. Ça, c'est un point important. Ça peut se décliner aussi dans d'autres régions du monde, et je suis sûr que ça commence à se décliner dans d'autres régions. Mais il faut vraiment développer l'articulation, si vous voulez, à la fois au plan régional et national, et en même temps, d'une manière transversale, sur les matières, c'est-à-dire sur le crime organisé et le terrorisme. Donc voilà les deux défis que l'on doit relever. Un bon point pour l'Asie centrale, comme je disais, qui a bien travaillé déjà avec l'aide au niveau du département des affaires politiques du représentant spécial du secrétaire général, et donc répliquer un peu ce modèle dans d'autres régions du monde.
Aïe aïe, est-ce que tu peux être édule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri.
Il y a un des problèmes qui est bien sûr évoqué aussi, ce sont ces fameux mouvements transfrontaliers, et ça sur tous les continents, la porosité, la perméabilité des frontières. Là, est-ce qu'également la stratégie peut aider à répondre à ces problèmes-là ?
Oui, d'abord, dans la stratégie, il y a ces questions qui sont incluses, si vous voulez, et ces problèmes transfrontaliers sont intimement liés à la question de la criminalité organisée, puisque la criminalité organisée ne connaît pas de frontières. Donc effectivement, on travaille beaucoup avec l'Organisation mondiale des douanes, avec Interpol, avec l'ONU-DC, avec tous les acteurs qui travaillent sur les questions des crimes transfrontaliers. Oui, bien sûr.
Alors, l'autre question, c'est la question à la fois des droits de l'homme, mais aussi le défi double, finalement, donc d'une part, lutter contre un fléau, mais en même temps, respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme. Est-ce que là, également, la stratégie est allée de l'avant? Est-ce qu'elle a progressé en ce sens?
La stratégie était le premier outil international qui a combiné les deux aspects, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme. Et je vais aller plus loin. Je veux dire qu'on ne peut pas concevoir, dans le cadre des Nations Unies, au vu de la charte telle qu'elle est écrite, qui fait de ce respect de l'état de droit et des droits de l'homme le centre de notre moteur commun, on ne peut pas concevoir une lutte contre le terrorisme sans la faire dans le cadre de l'état de droit. On ne peut combattre le terrorisme qu'au nom de certains principes. Donc on est bien obligé de travailler comme ça. Et on est obligé, et puis aussi c'est notre honneur. Alors ceci dit, il ne faut pas être naïf, il faudra bien que, comme on le fait d'ailleurs déjà, on a des pistes de travail, il faudra prévoir des procédures précises judiciaires pour lesquelles il y aura effectivement des intrusions vis-à-vis des droits de la personne humaine pour pouvoir travailler, mais il faut que ces intrusions soient parfaitement bien maîtrisées et qu'elles ne soient pas soumises à l'aléa de la volonté expresse de l'un ou de l'autre. C'est ça le défi.
Il y a également le problème quand même des victimes du terrorisme qui, elles aussi, ont droit à voir protéger les droits de l'homme. Donc, est-ce qu'également la stratégie et cette conférence d'examen donc de cette stratégie prennent en compte cette dimension?
Énormément. Nous avons beaucoup travaillé depuis le début de la stratégie avec le fameux symposium pour les victimes du terrorisme, après avec la diffusion du film pour montrer un petit peu les dégâts qui sont commis par le terrorisme. Les droits de la personne humaine, c'est à la fois les droits de la victime et les droits des auteurs des infractions. Je veux dire, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est clair qu'on doit toujours s'orienter vers des procès équitables, mais le côté équitable du procès va à la fois pour les personnes qui sont prévenues et les personnes qui ont été victimes. Autrement, on ne sait plus où mettre le curseur et la boussole.
Autre défi et donc autre réunion à New York, le débat organisé début juillet par le Conseil économique et social de l'ONU sur la corruption et sur le thème « La responsabilité, la transparence et le développement durable ». La corruption qui, par exemple, en 2011, a empêché 30% de l'aide publique au développement d'arriver à ses véritables destinataires, soit autant d'écoles, de ponts et d'hôpitaux qui ne seront pas construits. Comme le confirme Dimitri Vlassis, il est chef du service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
C'est la première fois qu'on essaye de faire quelque chose à l'Écosoc, particulièrement pendant le segment haut niveau. Pour nous, cette opportunité était souhaitable parce que c'était une initiative du président de l'Écosoc lui-même et nous pensons que ça tombe dans les efforts de réformer l'Écosoc, de trouver son niche et revitaliser cette très importante entité qui est une des institutions de Sartre des Nations Unies. Alors, pour nous, les aspects politiques que l'Écosoc porte, comme l'entité chargée avec l'agenda développement social et économique, est très important pour faire un complément au travail qui est fait par la conférence des États-partis. Et alors, la force politique qui porte l'Écosoc et aussi l'Assemblée générale sont très importants compléments. Un autre aspect aussi très important, à New York, on a la présence d'une mission permanente de tous les pays membres des Nations Unies. Alors c'était pour ça que nous avons commencé à travailler avec le secrétariat de l'Écosoc et nos collègues ici à New York pour organiser cet événement. Et c'est bien passé.
Alors, plusieurs intervenants dans les discours qui ont été faits, ça va du président donc de l'Écosoc, mais aussi il y avait le vice-secrétaire général qui faisait un de ses premiers discours, Yann Eliasson. Il y a eu aussi dans l'après-midi le secrétaire général qui est rentré du Japon, Ban Ki-moon. Il y a eu d'autres intervenants qui ont mis l'accent sur le fait que la corruption aujourd'hui, c'est une sorte de fléau qui vole des opportunités aux plus pauvres et souvent les plus vulnérables sont les victimes de cette corruption. Ils n'ont plus accès à des services essentiels. Alors, est-ce que c'est vraiment une des grandes priorités de la Convention de faire en sorte que les populations, les plus pauvres aujourd'hui ne soient plus deux fois victimes finalement de ce fléau?
La corruption n'est pas un privilège des pays en voie de développement. Il y a partout. C'est un problème aussi pour les pays développés. Et on a plusieurs exemples maintenant qui sont devenus plus visibles à cause de la crise économique et financière. Mais c'est vrai aussi, comme tout le monde a dit, le vice-secrétaire général, le secrétaire général, aussi le directeur exécutif de notre office, M. Fedotov, ils ont tout dit que ceux qui souffrent le plus sont les pauvres. Et c'est très important aussi de faire les liens entre la corruption et le développement. La corruption comme fléau, comme obstacle au développement. Particulièrement à cette époque, parce qu'on a déjà commencé ici à entamer la discussion, le débat sur quel est le progrès qu'on fait vers l'achèvement des objectifs du millénium pour le développement, où on se trouve, et aussi d'entamer la discussion qu'est-ce qu'on fait avec les objectifs après 2015. Et ça est une discussion qui va en parallèle avec aussi une autre extrêmement importante discussion sur l'état de droit. Pour nous, toute cette activité montre qu'on doit travailler comme une Nations Unies, ça veut dire une organisation, pour assurer qu'on aide ces pays en voie de développement pour mettre en œuvre la Convention et éventuellement aussi combattre effectivement la corruption.
Alors est-ce que justement la question de la corruption a une plus grande acuité aujourd'hui quand on sait que pour la première fois depuis de longues années, l'aide publique au développement est en baisse, la crise économique aujourd'hui est un facteur qui explique cette situation ?
Nous craignons que la crise économique va nous porter dans les époques où la corruption devient plus acceptable comme moyen pour avancer les intérêts commerciaux, etc. Heureusement, nous n'avons pas encore de statistiques, c'est ça, mais nous avons peur que ça va être le cas. Alors, c'est pour ça encore plus important qu'au niveau de développer la politique, c'est que ces entités comme le COSOC, l'Assemblée générale, la conférence des partis ont chargé de faire. Il y a, premièrement, la connaissance pleine de l'importance, de la gravité de cette situation et aussi d'assurer que, comme l'aide s'en baisse, que la priorité de cette aide n'oublie pas l'importance des institutions qu'on doit avoir sur place pour combattre la corruption.
Alors on parle de crise, on parle de commercialisation à outrance, de mondialisation. Il y a également la recherche des matières premières. Les pays qui détiennent dans leur sol des ressources, des matières premières, des minerais, du pétrole, etc. sont bien sûr souvent sollicités, les dirigeants politiques, économiques et autres. Est-ce que là également on voit un regain de corruption dans ces pays-là ? Est-ce que les pays qui sortent de conflits, justement, qui sont fragilisés par cette sortie de conflit et qui ont des matières premières en abondance sur leur territoire, est-ce que également ces pays-là sont à aider particulièrement ?
Vous avez tout à fait raison, oui. On doit trouver les moyens d'adresser les besoins de ces pays comme usance, etc. Mais je suis optimiste parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances maintenant de problèmes spécifiques, particuliers qui se posent. On a des situations dont vous avez parlé. Il y a plus de connaissances, il y a plus de réalisation, plus d'appréciation, si vous voulez, du fait qu'on doit trouver la recette appropriée pour chaque situation. Et les donateurs sont beaucoup plus sensibilisés, et aussi les pays eux-mêmes. Il y a pour la première fois le même pays qui ont le problème, qui ont commencé eux-mêmes de parler du fait que d'une journée à l'autre, on se trouve avec des ressources très importantes, d'argent qui vient de ces ressources et les dangers qui se posent pour le pays.
Il y a plein d'enjeux en ce moment. On a parlé récemment encore de la stratégie mondiale contre le terrorisme. Est-ce que, justement, on a du mal aujourd'hui à défendre le problème de la lutte contre la corruption par rapport à tous ces enjeux, à toutes ces menaces ?
Non, non, à mon avis, non. Il y a beaucoup plus de connaissances. On avait une salle pleine de l'Ecosoc. Ça veut dire que la sensibilisation portait des résultats. Il y a beaucoup plus d'intérêt. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de volonté de trouver des solutions qui sont appropriées pour tout le monde. Il y a quelques priorités comme la lutte contre la corruption qui sont à la base des succès ou pas d'autres objectifs, d'autres efforts.
Voilà, et c'est ainsi que se referme Escale, Escale, un magazine consacré cette semaine au double défi du terrorisme et de la corruption. Un magazine préparé par Jérôme Longuet avec l'aide de Florence Westgaard et de Rosie Starr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur internet tous nos programmes en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.